Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Toujours aussi inquiétantes les réalités sociales des chantiers navals de Saint-Nazaire, redevenus ce samedi les chantiers de l'Atlantique. Explication dans un instant de David Ravier. La mise en garde des constructeurs automobiles américains à l'administration Trump, gare à la casse en cas de déclaration de guerre commerciale à l'Union européenne. Et la Chine, comment se prépare-t-elle à la mener cette guerre? Réponse dans la bulle écho. Nous nous rendrons également à Malte où l'OFPRA examine les demandes d'asile des réfugiés du Lifeline. Reportage de Nathanaël Charbonnier. Enfin, au Mexique, à la veille de la présidentielle, victoire en vue pour le candidat de la gauche, Andrés Manuel López Obrador. La navale de Saint-Nazaire bat de nouveau pavillon français. Pour quelque temps, à compter d'aujourd'hui, le coréen STX n'est plus propriétaire de l'armateur tricolore et les symboles ne s'envolent pas d'un trait de crayon. La place retrouve son nom des chantiers de l'Atlantique. Dans quelque temps, l'italien Fincantieri devrait prendre possession de 51% des chantiers. Une perspective qui ne dissipe pas les inquiétudes récurrentes de ce secteur d'activité en crise depuis des décennies, depuis la montée en puissance des sites asiatiques. David Ravier.
L'arrivée du géant italien à la tête des chantiers de l'Atlantique devrait consolider la position de mastodonte de Saint-Nazaire dans l'univers de la construction navale. Mais pour Sébastien Benoît, le secrétaire général de la CGT à la STX de Saint-Nazaire, peu importe le futur pavillon des chantiers navals, la situation restera la même pour les employés.
C'est la même équipe de direction qui est aux manettes du chantier et qui organise la casse sociale depuis des années avec la même constance, quelle que soit la nationalité de l'actionnaire. Donc pour nous, c'est pas tellement la nationalité de l'actionnaire qui nous importe, c'est les réalités sociales vécues par les travailleurs sur le terrain. Et là-dessus, évidemment, on n'a aucune confiance ni en l'État, ni dans les futurs actionnaires pour changer cette réalité, à moins que les travailleurs se battent sur ce terrain-là.
Pourtant, selon la CFDT, près de 500 emplois ont été créés sur les chantiers ces deux dernières années. Et récemment, le carnet de commandes s'est étoffé avec la création de 3 nouveaux paquebots pour 3 milliards d'euros. Ces bons résultats, accompagnés d'une ouverture à l'actionnariat pour les employés, ne rassurent pas le syndicaliste pour autant.
Les actions qui ont été prises par les salariés, on peut considérer que c'est beaucoup plus l'abondement de l'entreprise qui a favorisé cette prise d'action plutôt qu'une confiance dans l'entreprise. On peut dire que c'est presque un plan d'épargne plus qu'une prise d'action de la part des salariés.
La décision finale concernant la cession des chantiers à l'italien Fincantieri devrait être rendue par les autorités de la concurrence à l'automne prochain, ce qui laisse encore le temps à la direction de rassurer les salariés sur leur avenir.
En pleine guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump, les autorités canadiennes mettent leur industrie à l'abri de lourdes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium, moyennant des aides d'un montant de 12,6 milliards de dollars US et Montréal de contre-attaquer en taxant des dizaines de produits américains. Le président américain n'a pas ouvert qu'un seul front économique. Donald Trump envisage toujours de taxer les importations d'automobiles européennes, envisage pour l'instant, car le département du commerce consulte les grands constructeurs nationaux avant de prendre sa décision. Et le plus gros d'entre eux, General Motors, prévient si la Maison-Blanche applique ses taxes douanières sur le secteur automobile, alors l'entreprise en souffrira très certainement. Washington, Grégory Phillips.
Décidément, le bras de fer commercial qui oppose la Maison-Blanche au reste du monde ne fait pas que des heureux ici aux États-Unis. Il y a quelques jours, le fabricant de motos Harley-Davidson, qui voit désormais ses exportations vers l'Europe taxées à plus de 30%, Harley donc annonçait la délocalisation d'une partie de sa production pour échapper à ces taxes douanières. Cette fois, c'est le géant de l'automobile General Motors qui met en garde. Si vous érigez de nouvelles barrières commerciales, alors nous serons moins compétitifs, nos coûts vont augmenter et nos produits pourront faire l'objet de représailles de la part de plusieurs pays, avec un risque important pour l'emploi ici aux États-Unis. 110 000 personnes travaillent pour GM. Cette mise en garde, General Motors l'a transmise au département du commerce qui poursuit ses consultations. Le secrétaire au commerce Wilbur Ross devrait rendre ses conclusions d'ici 3 à 4 semaines, puis c'est Trump qui tranchera. Mais le président ne fait pas mystère de sa volonté de taxer, par exemple, les voitures d'importation allemandes qui, à ses yeux, sont trop nombreuses sur les routes américaines. Trump dit « America first », l'Amérique d'abord, et cherche à appliquer ce slogan de campagne. Mais il semble que les industriels soient beaucoup plus circonspects sur l'efficacité d'une telle politique.
Ils étaient 120 ou plus à bord d'un canot pneumatique et ont quitté avant-hier les côtes libyennes. Et puis, selon l'un des 16 rescapés, tout a explosé. Le moteur, puis le bateau a explosé. L'embarcation avait quitté avant l'aube la ville de Garabouli, à quelques 50 km à l'est de Tripoli. Cette localité côtière qui est, semblerait-il, devenue l'un l'un des lieux privilégiés par les passeurs pour leurs basses œuvres. Ce drame vient de nouveau mettre au jour les recroquevillements, calculs politiques et divisions des nations européennes intactes au lendemain du sommet de Bruxelles. Il y a peu, l'Odyssée de l'Aquarius alimentait les débats, puis ce fut au tour du Lifeline, ce navire humanitaire affrété par une ONG allemande. Paris a fini par prendre la décision d'accueillir certains réfugiés du Lifeline qui a trouvé un port d'attache à Malte. Cette mission a été confiée à l'OFPRA. C'est un reportage à Malte de Nathanaël Charbonnier.
On connaissait de la Valette ses petites rues, ses petits restaurants, ses spots à touristes et ses taxis aux fauteuils de cuir et aux tarifs approximatifs. Mais il existe aussi le quartier de Massa, tout au bout du port, avec ses bateaux rouillés. Ici, pas de luxe, pas de carte bilingue ou trilingue sur les menus des restaurants, mais pourtant on y parle beaucoup de langues. C'est là en effet que vivent tous les migrants, ceux enfermés dans le centre d'accueil, à qui il est impossible de parler, et ceux qui sont dehors, soudanais, burkinabés, libyens, ivoiriens, et qui sont venus par solidarité accueillir les nouveaux arrivants, juste pour un petit regard, juste pour un petit mot.
It's solidarity for you. It's important you to be there.
So, yes, I hope.
Lui s'appelle Joseph. Il vient du Soudan. Il connaît le parcours par cœur, la traversée du désert, l'attente en Libye, la mort de certains de ses amis, la traversée en mer, et puis la vie ici à Malte où l'accueil n'est pas toujours à la hauteur.
Life very so little hard.
C'est difficile. Difficile, mais il est là, vivant. Il est là pour accueillir les nouveaux venus. Il est là, mais il n'est pas seul.
Peut-être nous avons commencé depuis hier les entretiens avec ces passagers.
Lui, c'est Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La France s'est engagée à accueillir sur son sol quelques dizaines de migrants. Les critères retenus sont ceux du droit d'asile, de la sécurité des personnes, et les choix ne sont pas faciles à faire car les histoires se ressemblent. Celles des 233 migrants qui sont passés là, avec le Lifeline, résonnent avec un goût de déjà entendu. Pascal Brice, directeur de l'OFPRA.
Ce sont des périples qu'hélas nous connaissons bien, l'OFPRA, puisque ce sont ceux de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont fui l'Afrique, traversé la Libye dans des conditions souvent terribles, la Méditerranée. Donc ce sont hélas ces mêmes récits que nous retrouvons là, et s'y ajoute la longueur de la traversée, ce périple. Notre travail étant d'être là pour prendre en compte leurs besoins de protection.
Protection des vies, protection des personnes, les migrants qui resteront à Malte peuvent être assurés, ils seront en partie protégés. Protégés de la mort, mais pas forcément du quotidien. Yaya Asso est arrivé depuis plusieurs années à Malte. Il est assis sur un petit muret dans ce quartier de Massa. Impossible de lui donner un âge. Il nous explique que les arrivées de migrants se font plus rares. Et quand on lui demande où est sa maison, il préfère nous expliquer là où il dort.
Non, ma maison, c'est là-bas, à côté de l'aéroport, là-bas.
Vous retrouvez des amis ici qui viennent de Côte d'Ivoire et qui viennent à Malte?
Oui, oui.
Beaucoup?
Il y a beaucoup. L'an 2011. Mais maintenant, c'est pas beaucoup ici. Beaucoup de gens qui sont passés à l'Italie. Beaucoup de gens qui sont passés en France.
Les amis, finalement, il n'en reste pas tant que ça dans ce quartier de Massa où l'Afrique semble se donner rendez-vous lorsque la chance est du bon côté. Et quand on quitte le quartier de Massa, il faut le faire à pied parce que les taxis n'y viennent pas. Quand on quitte le quartier de Massa, on sait que même s'ils sont en sécurité, les 233 migrants du Lifeline n'en ont pas fini avec leur fuite pour découvrir un monde meilleur.
Reportage de Nathanaël Charbonnier à La Valette. Le secrétaire général des Nations Unies lance de nouveau un appel à un cessez-le-feu immédiat dans le sud-ouest de la Syrie, là où l'armée gouvernementale et ses alliés pilonnent la province de Deraa, tout en proposant aux effectifs de l'armée syrienne libre de signer des accords dits de réconciliation. La superstar de la gauche mexicaine, Andrés Manuel López Obrador, celui que les Mexicains surnomment AMLO, est sur le point d'accéder à la présidence à la veille de l'élection. Il devance tout le monde dans les sondages et nettement. Toutefois, le spectre de la fraude, fraude organisée par les partis traditionnels, hante ce scrutin. Olivier Poujade est à Mexico.
La fraude électorale, c'est la seule crainte des amoureux de López Obrador, les AMLovers comme Luisa, convaincue que cette troisième candidature sera la bonne.
Si nous volaient de nouveau l'élection, ce serait un scandale et ce serait injuste. Les précédentes élections, j'ai beaucoup pleuré. Deux fois, ils ont volé la victoire d'AMLO. Ça m'a brisé le cœur. J'avais pleuré toute la nuit avant de pouvoir m'endormir.
Muchísimo, AMLO. ver.
L'espoir est immense chez de nombreux Mexicains, mais l'écrivain Jorge Volpi reconnaît que le double visage de l'ancien activiste inquiète une partie de la société.
C'est un politicien qui, oui, a des aspects qui sont préoccupants, un certain autoritarisme, un certain dogmatisme. Il ne tolère pas la critique, mais aussi, il est un politicien assez pragmatique. On l'a vu quand il a été le maire de Mexico.
Le principal problème de Mexico est la corruption.
À chaque discours, AMLO annonce fièrement qu'il s'attaquera sans relâche au cocktail violence, impunité et corruption qui ronge le pays. Un discours un peu facile, d'après Daniel Isaraga, enquêteur spécialisé dans les réseaux de corruption.
Moi, je suis assez critique vis-à-vis de lui. Quand il dit « j'arrive et voilà, plus de corruption ». Mexico ne connaîtra plus jamais la corruption. Soyons sérieux. Et les lois, comment et quand est-ce qu'on les modifie? Il n'a pas de plan pour combattre cette corruption, à part lui, tout seul depuis la présidence. C'est pas comme ça que ça marche.
Populaire pour vouloir s'attaquer aux vrais problèmes du Mexique, AMLO est pour ses adversaires un populiste qui n'a pas les moyens de changer le système.
Olivier Poujade, accompagné de Gilles Gallinaro à Mexico.
La bulle économique, Marie Vienno.
Marie, vous nous emmenez ce samedi en Chine. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui nous partons en Chine. Alors que tous les éléments d'une guerre commerciale se mettent en place, les Chinois ont déjà engagé la bataille avec un mot-clé, ou plutôt une date-clé. Anhui, cela veut dire 2025. 2025, c'est l'horizon que s'est fixé la Chine pour devenir, plus qu'elle ne l'est déjà, l'atelier du monde. Made in China 2025, c'est le nom de cette stratégie qui, comme toutes les autres, a été mise en chanson par le pouvoir chinois pour faire passer le message en mandarin et en anglais. La Chine est déjà un géant manufacturier, mais dans des produits plutôt bas de gamme. Avec Made in China 2025, la Chine se voit leader dans 10 secteurs stratégiques, comme les nouvelles technologies de l'information, les semi-conducteurs, les robots, les véhicules à énergie nouvelle, les économies d'énergie ou la médecine biologique. Pour les batteries électriques de voitures, la Chine ambitionne même de détenir à terme 100% du marché. Vous avez aimé les panneaux solaires chinois réduisent la filière photovoltaïque européenne à peau de chagrin. Vous adorerez peut-être, les voitures électriques chinoises sont les seules que vous pouvez acheter désormais. Cette volonté hégémonique inquiète les Européens et les Américains. Officiellement, l'Union européenne dit n'être en guerre avec personne, mais elle a déposé le 1er juin une plainte contre la Chine auprès de l'OMC pour des transferts de technologies forcés. Cela fonctionne ainsi. Pour produire en Chine et avoir accès à son marché, une entreprise étrangère est obligée de faire alliance avec une entreprise chinoise sous forme de joint venture. Puis, l'entreprise chinoise l'oblige par contrat à transférer sa technologie, ce qui revient à ne pas reconnaître à l'entreprise étrangère un droit de propriété intellectuelle. Cela fait des années que le Japon, les États-Unis et l'Union européenne veulent porter plainte auprès de l'OMC à ce sujet. Si cela a autant tardé jusqu'à juin dernier, c'est parce que pour déposer plainte, il faut citer des cas concrets. Or, aucune entreprise victime de ces transferts forcés de technologie n'osait témoigner de peur de se couper de ce marché colossal d'1,4 milliard d'habitants. Bonne nouvelle, il y a donc eu quelques entreprises européennes courageuses dont on ne connaîtra pas le nom cependant. Mais, question angoissante, n'est-ce pas trop tard ? Que la Chine ne joue pas le jeu du libre-échange mondial, qu'elle subventionne massivement ses entreprises, érige des barrières non tarifaires, écoule sa surproduction à des prix de dumping, tout cela n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on peut au moins faire le bilan de ce qu'a été l'accession de la Chine à l'OMC. C'était il y a 17 ans et finalement, ceux qui ont fait le pari que la Chine évoluerait en intégrant le commerce mondial ont eu tort. Au contraire, le régime chinois est de plus en plus autoritaire et sa stratégie commerciale plus expansionniste que jamais. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que les États-Unis ne le tolèrent plus et que leur président est prêt à un bras de fer qu'il n'est pas sûr de gagner et qui pourrait anéantir 50 ans de diplomatie commerciale. L'attitude de Donald Trump inquiète l'Union européenne, officiellement, mais finalement, qu'il joue le bad cop, le mauvais flic, face aux Chinois, permet aux diplomates européens de mettre la pression sur la Chine en disant « revoyons les règles, notamment de subventions, rebâtissons l'OMC ensemble, sinon les Américains vont faire voler en éclats le système dont vous êtes les grands gagnants. Parler, c'est en effet mieux que faire la guerre. Si les Chinois s'engagent à changer, nous n'aurons cependant d'autre choix que de les croire sûrs.
Merci à vous, Marie Viennot. La Bulle Écho à retrouver sur franceculture.fr. La météo de ce samedi, temps estival, alerte canicule dans le Rhône, neige jusqu'à 36 degrés dans le sud-ouest. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue à la technique, Emmanuel Morse-Duncan.